Théologie en liberté. Présenté par Michel Jass.
Bonsoir ou bonjour, Radio Alliance Plus, au micro Michel Jass, Théologie en liberté. La critique historique en exégèse, la critique historique, pas comme les autres, la critique, entre guillemets, en science historique moderne, désigne une technique d'examen, de contrôle des sources, de vérification de ce qui est cru, de ce qui a été dit, en distinguant chaque fois le crédible de l'incertain ou du faux. L'historico, donc critique entre guillemets, dans l'étude des textes bibliques, Ancien Testament et Nouveau Testament, permet de prendre un peu de hauteur, de recul, de la distance et de se libérer du littéralisme en situant chaque fois les textes dans leur contexte et avec une meilleure traduction. Cette science est née au XIXe siècle, d'abord en Allemagne, dans un contexte des grandes universités allemandes de l'époque, un contexte hegélien, dit de gauche, hegélien de gauche, qui permet d'analyser les choses dites sans forcément les prendre à la lettre, mais en les situant dans le temps, donc dans un processus dialectique, et les compréhensions successives. La science historique, donc ça va à la fois pour l'histoire en général, mais aussi pour le biblique, la science historique dite « critique », entre guillemets, a permis, à cette époque, le libéralisme dans le protestantisme, où on dit, avec les Lumières, les sciences des Lumières, où on dit qu'il s'agit de comprendre l'intention des textes, le fond, et pas la forme. Alors, on a compris la Bible de façon moins magique, moins tombée du ciel, en analysant les évolutions, les vouloir dire, la construction des textes qui ne sont pas, en général, qui ne sont pas, même dans la Bible, unanimes, mais souvent complémentaires. Les protestants libéraux ont, par ce chemin, déconstruit la dogmatique habituelle, la dogmatique protestante. C'est une façon de perdre la foi, disaient les conservateurs qui étaient contre les libéraux. L'Europe des Lumières avait permis cette liberté, cette méthode, cette ouverture, protestantisme libéral, donc on dit, protestantisme libéral d'un côté, et catholicisme moderniste ou libre-pensée chez les autres, mais c'est un peu le même mouvement. Toutefois, avec l'habitude, cette critique historique dans l'analyse des textes, et là on parle des textes de la Bible, c'est elle aussi inévitablement figée. Les hypothèses non vérifiées se sont répétés. On dit comme les profs ont dit. Et je voudrais, par cette émission, apporter une certaine critique de la critique, critique de la critique historique, ou apporter une critique historique minoritaire. Radio Alliance Plus, au micro Michel Jass, la critique historique minoritaire, une méthode historico-critique encore, pour la Bible, mais une méthode minoritaire. Je voudrais commencer par Jean Carmignac, un savant formidable, interprète génial de la Bible. Jean Carmignac était prêtre catholique, et j'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 70-80. Il dirigeait la revue internationale qu'il avait d'ailleurs fondée, la Revue de Qumran. La revue était spécialisée dans l'étude des manuscrits de la Mer Morte, découverts. Ces manuscrits avaient été découverts après-guerre dans le désert de Judée. Il a écrit plusieurs livres de théologie, traduit tous les grands textes, surtout c'était ça sa spécialité, tous les grands textes de la Mer Morte, découverts dans les grottes en dessous du village de Qumran. Il était pour cela un des grands spécialistes de l'hébreu de l'époque de Jésus et de l'araméen. Il était resté prêtre dans une des petites paroisses du diocèse de Paris et pas toujours bien reçu par les professeurs de Nouveau Testament de l'Institut catholique de Paris, qui étaient plus conservateurs dans leur analyse des textes bibliques critiques. Malheureusement, il a été un certain temps après sa mort un peu récupéré, je crois que c'est plus le cas, par les catholiques traditionnalistes, justement parce qu'il ne prenait pas la voie critique majoritaire de son époque. Jean Carmignac, avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir correspondre avec lui, était en réalité un chrétien écuménique sans être moderne. C'était d'abord un homme de science et d'ouverture. Je voudrais retenir de lui deux lectures critiques du Nouveau Testament qui lui sont particulières et qui sont rarement citées. Pour nous aider à relire les textes du Nouveau Testament, je prends deux exemples concernant premièrement Noël, les récits de Noël, et deuxièmement les récits de Pâques. Alors pour Noël, nous avons dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, deux récits de la naissance de Jésus, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc, qui sont parallèles. Il se passe quelque chose dans le ciel, dans les deux textes. Il se passe quelque chose à l'occasion de la naissance de cet enfant, de la naissance de Jésus. Et il y a des invités qui viennent assister à ce moment, et ces invités sont différents dans les deux textes. Alors je viens de l'évoquer avec des détails qui divergent, aucun des détails de Matthieu pouvant renvoyer à ceux de Luc, et aucun des détails de Luc pouvant renvoyer à ceux de Matthieu. Donc il y a un problème. Dans Matthieu, il y a dans le ciel une étoile, et dans Luc, ce sont des anges. Dans Matthieu, les invités, ce sont des mages. Dans Luc, ce sont des bergers, des moutons. Donc, il faut bien distinguer ces deux textes, parce que nous, on est liés au folklore provençal, où on a tout associé, étoiles du ciel, anges, mages, bergers, et en plus, on est les centons de Provence. Mais là, donc, c'est une étude sérieuse des textes. Et il y a c'est des textes qui divergent. Jean Carmignac, féru de la littérature de Qumran et de l'araméen de Qumran, propose avec un prêtre roumain, Constantin Daniel, qui est mort depuis longtemps, une lecture parallèle convaincante. Radio Alliance Plus, Michel Jaz, Théologie en Liberté, nous étions avec cette lecture de Constantin Daniel et de Jean Carmignac concernant les récits de la naissance de Jésus dans Matthieu et dans Luc. « Tout s'éclaire avec Qumran », dit Jean Carmignac. Le contexte, en réalité, est essénien. Bethléem est à 5 km à vol d'oiseau de Qumran. Le Bédouin, qui d'ailleurs a trouvé les grottes et ces fameux manuscrits qui étaient cachés dans ces grottes, ce Bédouin était de Bethléem. Le contexte essénien est clair et explique les variations entre l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc dans les récits de Noël. D'abord, une proximité entre les prêtres zoroastriens, perses, on disait les mages, qui vivaient à l'époque près de la Jordanie. Et ces religieux, qui étaient habillés un peu comme les prêtres zoroastriens, ils étaient en blanc, et qui étaient presque des juifs intégristes, en tout cas spiritualistes, et qu'on nomme esséniens. Les uns sont des mages, les autres des brebis. Assen, en araméen, pouvant donner le nom essénien. Assen pour brebis en araméen. Des gardiens de brebis. Un des textes de Qumran parle, dans, parle de l'épisode de la création de cette secte essénienne, donc parle des gens de ce groupe, ceux qui ont donc par la suite caché tous ces textes dans les grottes de Qumran, comme eux-mêmes des brebis. Enfin, tous les peuples du Moyen-Orient ancien sont présentés par des animaux, et ces juifs-là sont présentés un peu comme des brebis, un peu comme quand Jésus le fera en disant « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis ». Hassen. En haut dans le ciel, pour Matthieu, il y a donc une étoile, au moment du récit de la naissance de Jésus. Et pour Luc, pas une étoile, un ange, des anges. Donc, explication. Les Esséniens étaient les seuls juifs de l'époque à identifier les anges aux étoiles. C'est manifeste. On pourrait ajouter que le Gloria est un hymne typiquement essénien, et que Anne, fille de Phanuel, qui est là, qui est présente au moment de la naissance de Jésus, elle porte un nom, Phanuel, essénien, comme Siméon, qui est prêtre et prophète essénien aussi à cette époque. Deuxième exemple, l'éclairage apporté par Qumran et le père Jean Carmignac au sujet du calendrier de la Semaine Sainte. Et là, Jean Carmignac renvoyait à l'étude d'Annie Jaubert, qui n'a pas été vraiment reconnue par les protestants car elle était catholique, et qui n'a pas été vraiment reconnue par les catholiques car c'était une femme. Annie Jaubert a relu toutes les références chronologiques des quatre évangiles concernant la Semaine Sainte. Pour elle, il y a et pour tous les lecteurs attentifs de la Bible, il y a des incohérences, des contradictions manifestes qui sortent aux yeux quand on passe d'un évangile à un autre pour essayer de comprendre un peu la temporalité, la chronologie de cette Semaine Sainte. Là, on dit que c'est 3 jours avant la Pâque, et là, que c'est lors de la préparation des pains sans levain, et que cela ne marche pas quand on passe d'un évangile à l'autre. Alors, Annie Jaubert et Jean Carmignac, à sa suite, ont montré qu'à l'époque de Jésus, en fait, il y avait 2 calendriers pour célébrer la Pâque juive. Ça, on le dit trop peu, mais c'est un éclairage formidable. 2 calendriers. Le calendrier majoritaire, celui des pharisiens, celui qui va constituer le Talmud, les pharisiens et les sadducéens, on est avant la destruction du temple de Jérusalem, et le calendrier minoritaire de ces juifs mystiques dans le désert, les juifs de Qumran. Et là, tout s'éclaire. Le nœud, le problème chronologique, est dénoué. Dans la nuit du mardi soir au mercredi de la Semaine Sainte, avait lieu le repas de la Pâque essénienne pour les Esséniens, jour où Jésus prit ce repas liturgique avec ses disciples. Se déroule ensuite la passion du Messie et sa résurrection lors de la Pâque des Juifs majoritaires, sadducéens et pharisiens. C'est pour cela que tantôt les évangiles parlent de la chronologie pharisienne et tantôt en prenant la chronologie des Esséniens. Donc, tant pis pour la datation du jeudi saint, mais les textes bibliques retrouvent une certaine cohérence avec cette chronologie. Radio Alliance Plus, Michel Jasse, théologie en liberté. L'historico-critique, peu cité, car cet historico-critique que je vous propose dans cette émission est minoritaire. Nous parlions de Jean Carmignac, qui éclaire les textes évangéliques en les comparant avec les manuscrits de la Mer Morte découverts à Qumran. Jean Carmignac a éclairé, c'est vrai, la compréhension aussi de beaucoup de textes de l'époque qui n'étaient pas tellement cités, pas bien compris. Par exemple, un texte syriaque, dit des Odes de Salomon. On disait que c'était un texte apocryphe, pas tellement intéressant, qu'on a désigné quelquefois comme prégnostique, on ne savait pas trop comment le situer. On avait du mal à le comprendre. Eh bien, Jean Carmignac a montré que ce texte, les Odes de Salomon, reprennent en fait, presque texto, les hymnes de Qumran, en les christianisant. Donc c'est certainement un Essénien qui est devenu chrétien et qui a écrit ce texte. Et vraiment, c'est tout simple et manifeste. Jean Carmignac montrait aussi que le sermon sur la montagne, le long discours de Jésus au début de l'évangile de Matthieu, se retraduit facilement, donc il est dans nos manuscrits, il est en grec, mais se retraduit facilement en hébreu de Qumran. Et les fautes qu'on passe quand on passe d'un manuscrit à l'autre ou d'un évangile à l'autre, entre Matthieu et Luc, peuvent très bien être comprises comme une mauvaise lecture de cet araméen. Et pour lui, les discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu pourraient être vraiment datés, même avant la passion du Christ. Donc il suffit de travailler un peu la question et le courage de le reconnaître contre la majorité des exégètes. Nous passons maintenant à une autre lecture des évangiles historico-critiques, mais peu citée car minoritaire, mais qui selon moi mérite notre plus grande attention. Les travaux de Christian Bernard Anfou, spécialiste pour le CNRS de l'étude des textes grecs du Nouveau Testament. Donc il a travaillé à Montpellier, puis il avait un bureau et des colloques organisés à Lunel et à Aix-en-Provence. Et il est maintenant dans la région de Montpellier, il est chercheur retraité. comme d'aucuns. Donc, trois pistes pour l'étude des évangiles. À partir de sa contestation de la lecture historico-critique habituelle, pour arriver à sa propre démonstration et l'intérêt que nous pouvons trouver dans ses travaux. La méthode historico-critique habituelle pour les évangiles postule deux sources à nos évangiles. Une source araméenne, commune, à Matthieu et à Luc, qui expliquent le parallélisme entre ces deux évangiles. Christian Bernard Anfou est d'accord avec cela. Seulement, il nomme non pas la source commune Logia, cette source, il l'appelle Matthieu araméen, donc c'est conformément à la tradition des pères de l'Église. Et deuxième source, qui a été inventée en Allemagne au XIXe siècle, qui postule sur l'antériorité de Matthieu par rapport à Matthieu. L'antériorité de Marc par rapport à Matthieu et à Luc. Et cette deuxième source, Christian Bernard Anfou, la conteste. Et je pensais qu'il a raison. La méthode historico-critique allemande du XIXe siècle, donc je disais hegélienne de gauche, était typiquement évolutionniste, très évolutionniste, la dialectique, et dit évolutionniste pour les textes. On passe d'un texte plus court à un allongement progressif, un texte qui prend de l'ampleur. Donc, ça explique cette hypothèse qui parle d'un Marc, l'évangile de Marc, plus court, qui serait antérieur à Matthieu et à Luc, qui sont plus longs que Marc. Or, cela n'est pas juste. Quand on étudie les textes anciens, par exemple pour les textes du Moyen-Âge, on a plusieurs exemples de textes qui évoluent, non pas vers une augmentation des textes, mais au contraire, la constitution de résumés, en particulier au Moyen-Âge, avec les légendes de François d'Assise, et d'après les travaux de Jacques Dallarin, on voit qu'il y a eu des textes plus tardifs qui ont été des résumés des textes plus longs qui étaient antérieurs. Dans les nombreux groupes bibliques que j'ai animés dans mes différentes paroisses, j'ai essayé de tester cette priorité de Marc pour expliquer les différences entre Matthieu et Luc, Matthieu, Marc et Luc. Ben, en fait, quand on le voit en détail, ça ne marche pas. C'est très beau sur le papier, dans les livres d'introduction à la méthode historico-critique, comme grille de lecture, a priori. Mais plus en détail, vu en détail, ben, ça ne marche pas. En fait, Marc serait un résumé des deux premiers évangiles, Matthieu et Luc, compris de façon où Marc deviendrait une relecture plus symbolique. Et là, tout s'éclaire. Le secret messianique dans Marc, c'est une œuvre littéraire. Alors, le plus historique serait Matthieu. Puis Luc reprend Matthieu pour y intégrer un sens un peu plus spirituel, fidèle à ce que le maître Jésus disait. Et puis, les deux évangiles suivants seraient, eux, plus symboliques. Une reprise plus symbolique avec Marc, le plus petit des évangiles, et Jean. Alors, pour Jean, l'évangile de Jean, on le savait. Par exemple, quand Jésus parle avec la femme samaritaine, il ne fait pas du conseil conjugal. On a beaucoup brodé. Jésus, il dit « Tu as eu cinq maris. » Donc, non, c'est pas, il ne fait pas de conseil conjugal. Ce sont les cinq livres canoniques que les Juifs ont en commun avec les Samaritains. Et tu as eu cinq maris, c'est-à-dire bien que les Juifs et les Samaritains ont le même Pentateuque pour l'Ancien Testament. Mais celui que tu as, le sixième, n'est pas le tien. C'est le livre de Josué dans l'Ancien Testament que les Samaritains avaient cité pour expliquer leur religion, alors qu'ils, en fait, officiellement, ne reconnaissaient pas comme canonique. Et c'est une inconséquence qui est relevée par Jésus, qui était un bon juif. Cette réponse des juifs aux samaritains était bien connue à l'époque. Alors pour l'évangile de Jean, à Cana, le miracle de l'eau changée en vin, où il y a la mère de Jésus pour un repas de noces, etc. Eh bien, on sent bien qu'il y a du symbolisme dans ce texte. On le devine. Tous les exégètes le disent, qu'il y a certainement du symbolique. Tout porte à le croire. Mais en réalité, comme on est un peu loin de cet événement de Jésus, on n'a pas la clé d'interprétation pour essayer de décoder ce symbolisme qui a certainement existé. Alors pour Marc, c'est pareil. Par exemple, Jésus marche sur l'eau dans l'évangile de Marc, mais d'après les manuscrits les plus anciens, il marche sur l'eau comme ressuscité au milieu du petit évangile, qui n'a pas à la fin de l'évangile d'épisode de la résurrection de Jésus. Elle est donc au milieu, et c'est celui qui marche sur l'eau. C'est bien un tableau de ressuscité. Et tout est tout reconstruit dans Marc comme ça, comme un récit à prendre au second degré. Un évangile qui est bourré d'allusions et de symboles, renvoyant quelquefois à l'époque de l'apôtre Paul, avec des allusions au livre des Actes. Christian Bernard Renfou explique que seul parmi les pères de l'Église, le père de l'Église Clément d'Alexandrie avait bien noté qu'il y avait deux sens, deux niveaux de sens dans l'évangile de Marc. Alors, spécialiste des variations entre les manuscrits grecs du Nouveau Testament, Christian Bernard Renfou, donc spécialiste mondial reconnu, montre que seul le Marc, compris comme tardif, explique sa construction à partir des variations entre les différents manuscrits de Matthieu et de Luc. D'autant plus que le manuscrit d'Irénée de Lyon, qui se trouve aujourd'hui au British Museum en Angleterre, le manuscrit dit Codex de Bèze, donc très ancien, mais qui a été recopié au Moyen-Âge, classe les évangiles en mettant Marc après Matthieu et Luc. Donc Marc tardif qui annonce une lecture symbolique. Je passe sur l'interprétation de Christian Bernard Renfou valorisant l'aspect judéen et jérusalémite de Jésus, alors que l'historico-critique avait beaucoup trop, selon lui, et je crois qu'il a raison, beaucoup trop valorisé l'aspect galiléen. Je voudrais montrer une lecture totalement originale du grand spécialiste des manuscrits grecs du Nouveau Testament. Il montre que vis-à-vis de la structure des textes, donc il a beaucoup travaillé la structure, le nombre de consonnes, etc., la poésie des textes. Une phrase de Jésus a certainement été enlevée, censurée dans les textes des évangiles synoptiques, donc enlevée dans les évangiles Matthieu, Luc et Marc. Une phrase qui se trouve dans le Logion 22 de l'évangile de Thomas, et parallèlement dans la deuxième épître de Clément de Rome, au chapitre 12. Il s'agit du Logion de Thomas, où Jésus parle de la réunion du masculin et du féminin comme condition à l'entrée du royaume. Quand vous ferez du masculin et du féminin une seule chose, vous entrerez dans le royaume, disait Jésus. Donc, il a été enlevé. Et comment interpréter ce sens qui est un peu ambigu, qui a gêné les copistes? Comment l'interpréter? Un, et c'est Christian Bernard Anfou qui le dévoile, en bonne connaissance de l'évangile de Marc symbolique. Un, l'égalité de l'homme et de la femme. L'égalité de l'homme et de la femme. Deux, l'acceptation de la part de féminin chez l'homme et la part de masculin chez la femme. Explication à mettre en parallèle avec, vous savez, Dina, l'homme que l'on doit rencontrer pour que Jésus prépare la Pâque avec ses disciples. Dina est un nom féminin, alors que c'est un homme. Ce texte, on ne le voit pas trop dans les traductions françaises, parce que dans nos Bibles françaises, il est traduit par un tel, par Matthieu. Alors que non, c'est Dina, un nom féminin, pour un homme. Et dans Luc et Marc, il est désigné comme un homme portant une cruche. Donc normalement, ce n'était pas à l'époque des hommes qui portaient les cruches. Donc un, égalité de l'homme et de la femme. Deux, abandon de la séparation et de la hiérarchisation entre les sexes. Trois, peut-être aussi, réunion entre les juifs hébreux et les juifs hellénistiques. Donc les uns étaient peut-être plus orientaux, plus machistes, hein, que les autres plus efféminés, on pourrait dire, ou plus cultivés. Et quatre, valorisation de l'union. Mariage indissoluble, s'il y a mariage, valorisation de l'idéal dans la vie du couple, plutôt que le débat qui existait à l'époque, dans les textes qui vont constituer le Talmud, qui existait, et dans les évangiles on trouve ces références, sur l'aspect juridique pour le divorce, qui est bien naturel. Chers auditeurs, chers amis de Radio Alliance Plus, nous avons parlé de Jean Carmignac et de Christian Bernard Anfou, deux interprètes, j'ai pris cet exemple, de ces deux interprètes des évangiles qui nous apportent beaucoup, mais qui ne sont pas assez étudiés parce que la méthode historico-critique cesse quelquefois d'être historique réellement et critique, mais devient une sorte de scolastique, tout le monde se répète, et dans un sens c'est un nouveau cléricalisme, la méthode historico-critique qui ne tient pas compte des travaux de Jean Carmignac ou de Christian Bernard Anfou. Donc, lisons et décortiquons les évangiles à la loupe avec ces chercheurs minoritaires et parlons-en. Amitié, à une prochaine fois.